Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour et dans le cadre du Festival Est-Ouest, je reçois Georgia Marlouf. Bonjour Georgia.
Bonjour.
Alors vous êtes là une petite semaine avec nous pour profiter du Festival Est-Ouest qui cette année tourne autour du Liban. Vous avez un programme comme tous les autres un peu chargé avec des tables rondes, des cafés littéraires, des inaugurations et plein de choses plus ou moins agréables, j'aurais envie de dire agréables.
Non, plutôt très agréables.
Voilà, vous êtes écrivain, vous avez écrit des romans qui traitent entre autres du Liban mais pas seulement. Vous allez un peu nous parler de votre travail et puis du lien avec le Liban et d'où votre présence avec nous aujourd'hui.
Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, c'est un grand plaisir d'en parler. Il y a toujours plein de choses à dire sur le Liban et sur son travail d'écrivain.
Alors vous êtes l'auteur de livres, vous m'avez dit un petit peu hors antenne, des romans dont la toile de fond est le Liban, notamment Les Absents. Vous m'avez dit que ça traitait de la guerre. Est-ce qu'on peut parler du Liban sans parler de la guerre?
Alors je crois que... Alors c'est une bonne question. Je trouve que c'est une très bonne question parce que j'ai le sentiment que... Pour la génération des plus jeunes, j'ai entendu parfois des jeunes dire « Ah, on en a assez qu'on nous parle tout le temps de la guerre. Le Liban, c'est autre chose. On a envie qu'on nous parle d'un autre Liban que celui de la guerre. » Et je comprends aussi cette réaction. Donc on peut, bien sûr, parler du Liban sans parler de la guerre. Il y a une jeune romancière libanaise qui s'appelle Diane Mazloum qui a sorti un roman il y a 2 ans qui s'appelle « Beyrouth la nuit » et son sujet n'est pas du tout la guerre, c'est justement le Beyrouth d'aujourd'hui, un Beyrouth très contemporain. C'est le Beyrouth nocturne avec des jeunes qui déambulent, etc. Et la guerre n'est pas du tout présente, mais elle-même, quand elle parle de son roman, elle dit ce sont les bébés de la guerre. C'est-à-dire, cette génération dont elle parle, ce sont des jeunes qui étaient enfants, enfin vraiment les bébés pendant la guerre. Et du coup, ils ont été extrêmement protégés. Alors c'est intéressant cette idée, c'est-à-dire que moi, souvent, je pense que, en effet, ceux qui étaient très très jeunes pendant la guerre ont pu en être protégés quand les parents ont pu, à travers à la fois leur façon eux-mêmes de réagir à la guerre, d'en parler avec leurs enfants, mais aussi d'être capables de les protéger physiquement, parfois au prix de déménagements nombreux, parfois au prix d'un exil volontaire pendant quelques années à l'étranger, le temps que les choses se calment. Donc on a pu être protégé et vivre le Liban un peu à l'écart de cette guerre quand on appartient à une certaine génération. Mon sentiment, c'est que pour ma génération, moi j'étais déjà une adolescente quand la guerre a éclaté, et cette guerre nous a sauté à la gorge de façon extrêmement brutale, violente. Évidemment, on n'était pas préparé, mais souvent je me dis qu'est-ce que ça veut dire être préparé? Personne n'est préparé à vivre une guerre de toute façon. Mais je crois que cette guerre nous a vraiment, enfin ça a été vraiment tellement brutal, ça a tellement fait péter tous les repères, toutes les valeurs auxquelles on croyait, ça a tellement été une expérience de tout d'un coup on est dans l'inconnu, on se croyait, on croyait qu'on avait des murs et un sol autour de soi et tout d'un coup le sol devient meuble, on a l'impression que ce sont des sables mouvants. On ne sait même plus comment marcher dans la ville. Ça, c'est une expérience assez incroyable. C'est-à-dire que des rues qu'on a traversées 1000 fois, tout d'un coup, elles deviennent dangereuses parce qu'il y a un franc-tireur, parce qu'un barrage s'est improvisé dans la rue et qu'il y a des miliciens qui sont là avec leurs petits drapeaux qu'on ne connaît même pas, leurs armes et leurs sacs de sable et qui vous arrêtent en vous demandant votre carte d'identité parce qu'il y a des bombardements, etc. Donc aussi cette expérience que même les choses les plus familières, aller à la boulangerie pour acheter du pain, devient parfois un acte extrêmement dangereux, etc. C'est-à-dire cette perte des repères, y compris des repères géographiques, physiques, de déplacement dans la ville, C'est une expérience tellement incroyable, tellement marquante, que, en effet, j'ai le sentiment que c'est difficile, voilà, de ne pas embarquer tout ça dans son travail d'écriture. Alors, en fait, le projet de ce roman, Les Absents, n'était pas un projet, je dirais, thématique, c'est-à-dire je vais écrire un livre qui parle de la guerre. C'était pas, voilà, j'ai envie de parler de cette guerre, j'ai envie de relater cette expérience. C'était pas du tout comme ça que je me suis attelée à cette tâche. En fait, j'ai eu une autre idée qui était celle d'un dispositif d'écriture. Et ce dispositif, c'est celui du carnet d'adresses qui m'a été, voilà, enfin, qui est, dont l'idée est venue par toutes sortes de sources différentes, mais à un moment donné, je me suis donné cette espèce de défi littéraire, c'est-à-dire, serait-il possible d'écrire un roman qui raconterait la vie d'une narratrice sans que jamais cette narratrice ne soit présente de façon directe, c'est-à-dire que jamais on ne parle d'elle, de sa vie, de ce qu'elle fait dans sa vie, de son présent, de son métier, de son mari, etc. On aborde la vie de cette narratrice qu'à travers des personnages dont les noms et les adresses ont figuré dans son carnet d'adresses, mais qui pour différentes raisons ne font plus partie de sa vie. Donc j'imagine une narratrice qui feuillette son carnet d'adresses et qui évoque les personnes dont les noms donc figurent dans ce carnet, mais qui ne font plus partie de sa vie pour toutes sortes de raisons. Donc ils peuvent être absents parce que tout simplement, voilà, on s'est perdu de vue, comme ça arrive souvent dans la vie. Ils peuvent être absents parce qu'ils sont partis dans un autre pays, voilà, comme c'est arrivé beaucoup au Liban pendant toutes ces années de guerre. Évidemment, ils peuvent être absents parce qu'ils sont morts, parce que la guerre a tué quand même pas mal de monde. Et puis, ils peuvent être absents parce qu'il y a des brouilles, il y a eu des brouilles, des ruptures, des séparations, des déceptions qui ont fait que... Et donc, voilà, l'idée était de raconter la vie de cette narratrice au travers de ces autres personnes qui ont croisé sa vie à un moment donné. Donc, voilà, ça, c'était le premier pari. Ce qui voulait dire aussi de refuser délibérément une chronologie stricte, c'est-à-dire on ne raconte pas depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, etc., mais on raconte au gré des entrées du carnet d'adresses, ça veut dire qu'il y a des bonds dans le temps de façon systématique. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'était aussi que chaque court chapitre, enfin court ou moins court, d'ailleurs, il y en a qui sont assez courts, il y en a quelques-uns qui font 2-3 pages, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longs, qui font plus de 10 pages. Mais l'idée était que chacun de ces chapitres fonctionne à la limite un petit peu comme une petite nouvelle. Donc on serait presque dans un recueil de nouvelles, mais néanmoins le pari était que l'ensemble de ces nouvelles composent un roman. Donc voilà, je suis partie dans le projet de cette façon, et c'est petit à petit que je me suis aperçue qu'en fait il y avait une sorte de fil rouge qui revenait beaucoup, c'était le fil rouge de la guerre. Et je m'en suis aperçue après, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est vrai que ce n'était pas du tout explicitement le sujet que je voulais aborder. Et quand je m'en suis aperçue, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que justement la guerre m'avait quelque part rattrapée, alors que je n'avais pas décidé d'en parler de façon délibérée. Et du coup, j'ai un peu travaillé aussi cette histoire de la guerre, parce que donc cette narratrice, elle va, un petit peu comme moi d'ailleurs, connaître cette guerre à Beyrouth, et puis pendant un temps naviguer entre deux villes qui sont Paris et Beyrouth, et puis finalement s'installer à Paris où elle va continuer à vivre. En réalité, dans un premier temps, j'avais mélangé tous ces pans de vie, mais il semblait que ça ne fonctionnait pas pour les lecteurs, c'est-à-dire qu'ils étaient trop perdus dans cette absence totale de chronologie, ces allers-retours géographiques. Donc dans un deuxième temps de travail sur ce texte, j'ai décidé de séparer les adresses du carnet d'adresses libanais et les adresses du carnet d'adresses français, ce qui a donné un peu plus de lisibilité, je dirais, quand même à la trame narrative et chronologique du roman. Et du coup, je me suis dit, mais du coup, ça va complètement déséquilibrer l'ouvrage, où on va avoir une première partie qui parle de guerre et une deuxième partie qui parle de tout à fait autre chose. Et j'ai eu envie de retravailler cette thématique de la guerre, mais évidemment de façon différente, pour montrer de quelle façon elle reste présente malgré tout, quand bien même la narratrice a quitté le Liban, c'est-à-dire que finalement la guerre la poursuit même là-bas.
Ce ne serait pas une question de génération, parce que vous parlez des bébés de la guerre et de la façon dont les gens peuvent avoir envie de balayer ça et de montrer un Liban moderne. Vous l'avez vécu un peu différemment. C'est très paradoxal. C'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter l'exposition qu'il y a au musée, où on a une partie avec des aquarelles sur Beyrouth, très vivant, le marché, la ville, les terrasses de café, etc., les maisons, voilà. Et puis la seconde partie de l'exposition, qui est l'exposition d'une photographe, où beaucoup de choses sont cassées, la guerre est très présente. Et je me dis, comment est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un choix de voir le Liban en prenant en compte beaucoup ces traces-là de la guerre, ou alors au contraire en les rejetant?
J'avais commencé à vous le dire en évoquant par exemple Diane Mazoum et son roman, c'est sûr qu'il y a un regard générationnel différent, et heureusement que cette jeune génération est peut-être moins embarrassée, je dirais, par cet héritage de la guerre, et a envie d'être tout simplement dans la vie, dans la construction, dans l'avenir, etc. Donc il y a certainement cet effet, et en effet les deux réalités existent, c'est-à-dire c'est ça qui est complètement fou. Si on va à Beyrouth aujourd'hui, il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre, les deux se chevauchent en permanence. Et il y a ce côté un peu palimpseste de la ville, c'est-à-dire que derrière une affiche, il y en a une autre, et derrière un mur, il y a une couche de peinture, mais si on la gratte, on va peut-être trouver encore des trous de la guerre, etc. Donc je veux dire, il y a cette couche physique dans la ville, dans les traces matérielles qu'on va rencontrer dans la ville. Il y a encore des immeubles qui portent vraiment clairement les traces de la guerre. Et puis, il y a aussi des choses extrêmement modernes, extrêmement innovantes, des exemples d'architecture tout à fait innovantes, modernes, etc. Et les deux coexistent. D'ailleurs, c'est intéressant, va s'inaugurer, ou s'est inauguré tout à fait récemment, un musée à Beyrouth qu'on a appelé le musée Beit Beyrouth, c'est-à-dire la maison de Beyrouth, qui est en fait un musée qui est censé être le musée, enfin qui a pour projet d'être le musée de la mémoire de la ville. Et de façon tout à fait intéressante, le bâtiment qui a été choisi est un bâtiment qui se trouve sur l'ancienne ligne de démarcation entre ce qu'on appelait les deux Beyrouth. Et l'architecte à qui on a confié la rénovation de cet immeuble a souhaité garder vraiment dans cet immeuble, bien qu'évidemment il y ait un travail de rénovation tout à fait important, il a décidé de garder les traces de la guerre. Il n'a absolument pas voulu les effacer, et il a gardé entre autres, enfin je ne l'ai pas encore visité, mais j'ai vu plusieurs vidéos déjà qui ont été tournées, parce qu'il n'était pas encore, il n'est pas encore ouvert au public, mais il a gardé une pièce où avait sévi un franc-tireur pendant de très 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 longs mois. Et on a cette espèce de chose qui vous prend à la gorge, qui est cette pièce. Enfin, c'est un immeuble d'habitation, bien évidemment, déserté par ses habitants, parce que c'était devenu tout à fait impossible d'y habiter, et investi donc par des milices, selon les différentes vagues de la guerre, mais aussi donc par des francs-tireurs. Et donc là, on a vraiment les traces de cette présence de la guerre. Et je trouve intéressant que l'architecte, qui est très jeune, enfin qui est jeune, qui n'est pas très jeune, enfin, mais qui a pas 70 ans, en tout cas qui est plutôt dans la quarantaine, me semble-t-il, il a décidé volontairement de garder ces traces-là en disant ça fait partie de la mémoire de la ville. Et donc je crois que même si on veut se projeter dans l'avenir et on veut reconstruire un Liban, on ne peut pas faire l'économie du travail de mémoire. Et je crois que c'est beaucoup ça la question aujourd'hui.
C'était la question que j'allais vous poser, en fait. J'ai l'impression d'une sorte d'ambivalence entre la nécessité de garder la mémoire, la volonté de vouloir balayer le passé aussi pour rebondir et aller mieux. Mais effectivement, en faisant tout l'un ou tout l'autre, on y perd des choses. Je regardais une expo avec un... qui parlait des méthodes de construction traditionnelles au Liban avec les carrés de terre, etc. Il y a des gens effectivement qui veulent balayer tout ça en disant non, on a des trucs à construire, des trucs nouveaux, du neuf, on veut plus y penser. Mais c'est un peu le piège quand même, non ?
Alors c'est vrai que au Liban, dans la, je dirais que dans l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire quand il y a eu les accords de Taif qui ont signé, on va dire matériellement, politiquement la fin de la guerre, il y a eu une vraie volonté d'oublier. Et c'est tout à fait normal. Je crois que dans tous les pays, on observe ce besoin d'oublier pour pouvoir recommencer à vivre. J'en parlais encore parce que une de mes autres casquettes, c'est un travail de journalisme littéraire et j'ai rencontré il y a très peu de jours, c'est pour ça que je l'ai en tête, Benjamin Stora, qui est le grand historien aussi de l'immigration, du colonialisme, de l'histoire coloniale française, etc. Et on en parlait de ça. Donc le mouvement d'oubli juste après une guerre, il est relativement universel. On a besoin d'oublier, on a besoin d'une certaine dose d'amnésie pour être capable de recommencer à vivre. Et le Liban, de ce côté-là, waouh, il y a eu une espèce d'énergie assez incroyable. C'était complètement impressionnant, je veux dire, l'énergie qui s'est déployée dans tout le Liban. C'est ce besoin, ce désir de revivre, de construire, d'entreprendre, d'oublier la guerre, de faire la fête. Voilà. Et ça, c'est admirable. Hein, je veux dire, je ne le dis pas du tout. Au contraire, je trouve ça absolument admirable. Le problème, c'est que, si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne peut pas oublier quand même. Il y a bien un travail, d'abord un travail de mémoire, mais aussi qu'au Liban, cet oubli, il a malheureusement été exploité, on va dire, politiquement, parce que les chefs de guerre, on les a vus siéger dans les gouvernements successifs. Et ça, je crois que ce n'est pas possible. Je veux dire, on veut bien que les citoyens aient besoin d'oublier leurs souffrances, aient besoin peut-être d'oublier un temps tout ce qu'ils ont perdu et tout ce qu'ils ont traversé, c'est une chose, mais que cette amnésie touche le monde politique et que ceux qui ont gentiment mis le pays à feu et à sang se retrouvent aux manettes des gouvernements successifs, ça c'est pas possible. Et le problème, je crois que l'espèce de cul-de-sac, parce que voilà, j'ai le sentiment qu'au Liban aujourd'hui on est dans un cul-de-sac, on n'a pas de président de la République depuis 2 ans, il y a quelque chose qui est complètement grippé au niveau politique. Au niveau institutionnel, les institutions ne fonctionnent plus. Les Libanais ont un mal de chien à assurer des besoins fondamentaux, je veux dire, dont il ne faudrait même pas avoir besoin de parler, comme avoir de l'eau dans les robinets, avoir de l'électricité quand on rentre chez soi et qu'on appuie sur le bouton, etc. Avoir des ordures ramassées dans la rue parce qu'on paye des taxes pour, etc. Et toutes ces choses ne sont même plus assurées. Donc il y a vraiment une situation de cul-de-sac. Alors il y a plusieurs raisons évidemment à ça, mais je crois qu'une des raisons, c'est qu'on a trop oublié, on a trop laissé ces anciens chefs de guerre, ces anciens chefs de clan qui nous ont amenés là où ils nous ont amenés, c'est-à-dire droit dans le mur, ils sont encore aux manettes. Et voilà, c'est pour ça que l'oubli n'est pas possible. Là, il faut vraiment que ces gens-là quittent le pouvoir, qu'il y ait vraiment un renouvellement de la classe politique, dont on a vu quelques manifestations. Il y a eu récemment des élections municipales au Liban et il y a eu des mouvements de jeunes qui se sont mobilisés. Il y a eu en particulier à Beyrouth même un groupe de jeunes qui ont fait un travail formidable, qui se sont rassemblés dans un mouvement qui s'appelle Beyrouth Madinati, c'est-à-dire Beyrouth est ma ville, ce qui a été un slogan très simple mais qui voulait dire que les citoyens voulaient se réapproprier leur ville. Et donc voilà, et ce mouvement qui était inconnu au bataillon il y a encore peu de temps, a réussi malgré évidemment le fait qu'il ait été combattu par les chefs traditionnels, les mouvements traditionnels, a réussi à avoir un score tout à fait honorable aux élections municipales. Alors c'est peut-être pas encore grand-chose, mais c'est le signe qu'il y a. Il y a une volonté de la part de la jeunesse, de la part d'une autre catégorie de gens qui veulent vraiment faire un travail citoyen. Il y a de l'espoir de ce côté-là, mais pour moi, il n'y a plus aucun espoir du côté des politiques traditionnelles.
C'est la question que j'allais vous poser. Je me demandais si à force d'oubli, effectivement, on n'avait pas un peu noyé la conscience politique de la jeunesse, mais du coup, pas totalement.
Non, c'est pour ça. C'était un moment de très grand espoir, ces élections municipales, de voir que... à Beyrouth surtout, parce qu'il y a eu ce mouvement, donc Beyrouth Madinati, qui a été vraiment très très important, et qui, encore une fois, qui a mobilisé beaucoup beaucoup de forces, et c'était vraiment des jeunes. Alors ça, c'était vraiment formidable, des jeunes qui ne s'étaient jamais engagés, et qui se sont rassemblés, qui ont travaillé pendant des mois pour proposer un vrai programme. C'était pas juste un mouvement de contestation des politiques traditionnelles. Il y a eu vraiment un travail de terrain. Ils ont pris les dossiers, ils ont fait de vraies propositions tout à fait concrètes sur le stationnement, sur les espaces verts, sur la gestion des ordures, sur le recyclage. Enfin voilà, des choses extrêmement concrètes, hein. Et donc il y a eu une mobilisation extraordinaire. Et donc je dirais qu'il y a encore de l'espoir, et ça c'était vraiment formidable, parce qu'on avait l'impression que les Libanais sont tellement englués, les pauvres, hein, dans le fait d'être obligé de ramer pour avoir une vie décente, puisque encore une fois l'eau, l'électricité, les ordures, même ça ce n'est plus assuré, ne parlons même pas des soins médicaux, ne parlons même pas du niveau des écoles, du fait que les parents se saignent pour mettre leurs enfants dans des écoles privées, parce que souvent, pas toutes mais souvent, les écoles publiques n'ont pas un très bon niveau, etc. Donc je veux dire, la vie des citoyens est difficile, même très difficile. Et malgré ça, il y a eu ce mouvement formidable de mobilisation.
Une révolution libanaise bientôt ?
Alors vous savez, il y a eu en 2005, après l'assassinat de Rafi Hariri, qui était notre Premier ministre, il y a eu ce qu'on a appelé le printemps de Beyrouth. Il y a eu une mobilisation formidable qui a vraiment transcendé complètement les barrières confessionnelles habituelles et les lignes de fracture habituelles de la société libanaise. C'était vraiment un mouvement citoyen de très grande ampleur. Et on a appelé ça le printemps de Beyrouth. Et donc c'était en 2005, donc quelque part bien avant les autres printemps arabes. Le fait est que le Liban... a le malheur d'être sous la coupe syrienne et de ce régime dont on n'a plus besoin de montrer à quel point il ne recule devant aucun acte de barbarie et de sauvagerie. On voit ce que fait le régime syrien contre sa propre population. Et évidemment, cette espèce de camouflet qu'ont vécu les Syriens, enfin le régime syrien au Liban en 2005, parce qu'on les a boutés dehors, il y a eu une pression internationale terrible pour qu'ils quittent le Liban, puisque le Liban était occupé militairement par les Syriens. Eh bien, ils s'en sont vengés en assassinant systématiquement toutes les personnalités qui avaient pris la tête de ce fameux printemps de Beyrouth en 2005. Le premier étant Samir Kassir, un grand intellectuel, formidable. Le journaliste Jobran Twaini, bon, sont les deux figures les plus remarquables, je dirais, de ce mouvement. Mais d'autres aussi. Donc il y a eu une vague d'assassinats politiques absolument terrifiante dans la foulée de ce soulèvement national en 2005. Et c'est vrai que ça... Depuis, ça a été extrêmement difficile de reconstruire ce mouvement.
Je vous sentais pleine d'optimisme il n'y a pas cinq minutes. Et puis là, je sens que...
Oui, parce que cette évocation-là est très, très douloureuse quand même. Hein, je veux dire, encore une fois, la barbarie du régime syrien est sans limite. Et maintenant, le peuple syrien... en fait des frais absolument terribles. C'est même pas c'est très difficile d'en parler, parce que c'est vraiment très 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 lourd, très douloureux. C'est tous les jours, c'est en permanence, voilà. Mais bon,
vous publiez en français, est-ce que vous publiez vos ouvrages au Liban?
Alors, moi, j'écris en français. Mes ouvrages n'ont pas été traduits, en arabe. J'espère qu'ils le seront un jour. Parfois, ça met du temps. C'est vrai que, parfois, on a la chance de tout de suite pouvoir être traduit. Parfois, ça met plus de temps. C'est vrai que la traduction est coûteuse. C'est vrai que Il y a, voilà, les maisons d'édition libanaises, celles qui existent, elles ont énormément de courage et c'est pas facile d'être un éditeur au Liban aujourd'hui. Les ouvrages, bon, le pouvoir d'achat est en berne, la distribution dans les autres pays arabes est très difficile. Bon, vous connaissez l'état de la région. Donc voilà, c'est pas facile. Et donc évidemment, les traductions, c'est pas quelque chose qui, encore une fois très coûteux. Donc voilà, j'espère qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir être traduite en arabe. Mais évidemment, mes livres sont présents au Liban. Le roman Les Absents a été d'ailleurs il y a eu une coédition avec un éditeur libanais, Rivage, qui est dans le groupe Actes Sud, a des liens avec un éditeur qui est L'Orient des Livres, et certains ouvrages qui paraissent chez Actes Sud se font en coédition avec L'Orient des Livres. Et donc mon roman, ça a été pareil, il y a eu donc une coédition, et donc le roman était très très présent au Liban, mais dans la version originale, donc en français, et pas encore de traduction.
Outre Les Absents, qui parlent, comme vous l'avez dit, du Liban, vous avez aussi publié Les Hommes Debout, Dialogue avec les Phéniciens, et puis Éclat de mémoire, Beyrouth, Fragments d'enfance, deux autres ouvrages qui font mention, plus que mention d'ailleurs, du Liban.
Alors, je vais les prendre dans l'ordre de leur écriture. En fait, Éclat de mémoire, Beyrouth, Fragments d'enfance, est le premier ouvrage littéraire, on va dire, que j'ai publié, parce que avant j'avais eu quand même des ouvrages, enfin en tout cas un ouvrage important publié, mais qui était plutôt un texte documentaire, enfin un ouvrage dans une collection documentaire plutôt, voilà, qui était Les Grandes Religions, qui était paru chez Casterman. Donc Éclat de mémoire, voilà, disons que l'idée m'en est venue après avoir lu un ouvrage de Roland Barthes, qui était Roland Barthes par lui-même, qui est une espèce de un ouvrage très intéressant où Roland Barthes au fond raconte tout ce qu'il a constitué, à la fois sur le plan intellectuel, à la fois sur le plan biographique, à la fois sur des rencontres, etc. Et puis dans cet ouvrage, qui est une espèce de collage évidemment extrêmement brillant de Roland Barthes, il y avait un petit chapitre qu'il appelait les anamnèses. Et Barthes expliquait que les anamnèses, c'était, on va dire, des espèces de micro-souvenirs, non pas ceux qui sont tout de suite présents à la mémoire, parce que quand chacun pense à son enfance, à son passé, il y a des souvenirs qui sont extrêmement présents, mais ceux qu'il faut aller chercher, pour lesquels il faut faire un petit travail de réminiscence. Et ce sont vraiment des micro-micro-bouts de mémoire, mais qu'il est intéressant de faire remonter à la surface par un travail à la fois de souvenir et d'écriture. Voilà, et il rapproche ces anamnèses, même des haïkus de la poésie japonaise. Ce sont vraiment des choses infimes, mais qu'on refait vivre à travers une écriture, mais une écriture pas lyrique du tout, pas emphatique du tout, une espèce d'écriture très simple, au ras de la sensation. Et donc moi j'ai eu envie de faire ce travail, c'est-à-dire non pas d'évoquer des pans de vie et des choses comme ça, mais d'essayer de faire remonter de ma mémoire ce Beyrouth ancien, justement, qui avait été si bouleversé par la guerre. Mais c'était pas du tout d'évoquer la guerre, mais d'évoquer justement les toutes petites choses de la mémoire qui me revenaient. Et alors il y a eu des choses formidables qui me sont revenues à la mémoire, qui peuvent être aussi dérisoires que le bruit de poulies en fer sur les cordes à linge qu'on avait sur nos balcons, qui peuvent être la couleur des barbes à papa quand on avait dans les petits villages où on allait passer l'été des vendeurs ambulants qui venaient nous en proposer, qui peuvent être l'odeur du savon oriental dans la maison de ma grand-mère, voilà, des toutes petites choses comme ça. Et donc l'idée de ce livre était de redonner vie à vraiment ces espèces de micro-fragments qui étaient, donc c'était une écriture non pas, alors vraiment pas dans l'émotion. L'idée était d'être tout à fait à l'écart de l'émotion, mais être dans la sensation, ce qui est tout à fait différent. Et j'ai essayé de rester sur cette ligne de crête, c'est-à-dire ne jamais m'autoriser à aller dans l'émotion, parce que là, le lecteur est encombré de toutes sortes de choses, mais c'est juste la restitution de la sensation. Et ce qui a été extrêmement touchant pour moi dans ce livre, que j'avais l'impression d'être extrêmement, comment dire, proche de ce Beyrouth, on va dire, des années 60 en gros, c'est de découvrir que chez des lecteurs, même de pays différents, ça leur évoquait eux aussi des éléments, des sensations, des souvenirs de leur propre mémoire, quand bien même ils avaient vécu dans des pays extrêmement différents.
C'est tout l'intérêt de ne pas creuser l'émotion, comme vous dites, c'est qu'on ne va pas du coup s'étendre sur tout ce que ça peut évoquer derrière et qui serait à lui tout seul un chapitre. C'est que du coup, c'est cette sensation, comme vous dites, elle peut évoquer des choses intemporelles et hors contexte.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait on laisse le lecteur libre d'associer à partir d'une sensation toute simple. Alors moi, si j'évoque, je ne sais pas, le bruit de la poulie de la poulie en fer sur laquelle tournait la corde sur laquelle on étendait le linge, ça peut évidemment évoquer pour quelqu'un d'autre le grincement d'une porte ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, ça fait un effet comme ça d'association d'idées. Et ça fait remonter, non, c'est-à-dire c'est vraiment faire remonter des souvenirs qu'on croyait oubliés. Alors ça, c'était un travail que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et puis j'ai eu même des discussions avec des médecins ou des neurologues qui avaient travaillé sur la mémoire. Et de façon tout à fait intéressante, ils m'ont dit que vous savez, quand il y a des malades qui sont atteints d'aphasie, donc de perte de mémoire suite à des accidents ou des voilà, la mémoire la plus ancienne, donc la plus profonde en fait, c'est la mémoire des sensations. C'est-à-dire qu'ils vont oublier beaucoup d'événements ou des choses plus récentes, mais cette mémoire très ancienne qui est celle des sensations est celle qu'ils gardent le plus longtemps et qui est la plus, au fond, la plus profonde. Voilà, je trouvais ça intéressant aussi qu'en restant, on croit rester à la surface des choses à travers ces sensations, mais en fait, c'est la mémoire la plus profonde. Voilà.
Et on est dans quelque chose d'hyper primitif.
Oui. Voilà. Donc c'était aussi un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, en fait. Voilà.
Je suppose que dans le livre Les Hommes Debout, Dialogue avec les Phéniciens, vous évoquez encore quelque chose de très très différent.
Alors c'est vrai que c'est encore très différent. En réalité, j'ai essayé de me poser la question de cet héritage phénicien avec lequel, je dois vous dire, j'étais extrêmement brouillée. J'avais une relation extrêmement conflictuelle avec les Phéniciens et tout ce qu'on nous avait raconté de l'identité phénicienne, parce que ce pan de l'identité libanaise avait été instrumentalisé par des groupes politiques, etc. Et revendiquer l'identité phénicienne était une façon de refuser l'identité arabe. Voilà. Et donc cette instrumentalisation de l'identité phénicienne m'avait énormément perturbée et c'est quelque chose qui m'agaçait. Dès qu'on me parlait des Phéniciens, ça provoquait chez moi une espèce d'agacement épidermique. Et puis bon, à la faveur d'un certain nombre de choses, et entre autres en fait une sollicitation de la part de l'Institut du Monde Arabe qui à l'époque préparait une grande exposition autour des Phéniciens, on m'avait sollicité pour un texte plutôt de nature pédagogique, on va dire, puisque j'avais déjà fait des ouvrages jeunesse. En fait, je n'ai pas eu envie, parce que je ne suis pas historienne, et que je ne suis pas suffisamment spécialiste du tout, d'ailleurs, je ne suis pas du tout spécialiste des Phéniciens, de faire un travail de vulgarisation. Je ne me sentais pas autorisée, et d'ailleurs, je n'en avais pas vraiment l'envie. Et donc, du coup, ça a suscité en moi l'envie quand même de revisiter, on va dire, ce pan de notre identité, qui évidemment fait partie de l'identité libanaise, mais qui est une des données de cette identité qui est si multiple, puisque se sont succédés au Liban tant de civilisations différentes. Le sol libanais est un millefeuille absolu. À Beyrouth, on a parlé des constructions nouvelles, etc. Mais où qu'on creuse à Beyrouth, on trouve des choses extraordinaires. On trouve des termes romains, on trouve des ports phéniciens, on trouve des restes de civilisations cananéennes. Enfin, c'est absolument incroyable. Évidemment, arabes, byzantines, etc. Donc c'est une ville qui a toutes ces identités-là mélangées. Donc, ok, l'identité phénicienne, mais parmi, intégrée à cette espèce de, je dirais, de, d'identité métissée. Voilà, donc j'ai eu envie de revisiter, de reparcourir un peu ce qu'on savait des Phéniciens, donc en allant dans les musées, en allant sur les rares sites, parce qu'en fait, c'est d'abord les Phéniciens n'étaient pas des bâtisseurs, donc il y a très très peu de bâtiments, on va dire, d'époque phénicienne qui restent encore aujourd'hui. C'était surtout des commerçants, ils montaient des comptoirs tout sur le pourtour méditerranéen. Voilà. Donc en allant dans des musées qui avaient des objets phéniciens, en allant sur les rares sites où on pouvait encore voir les traces de leur présence, voilà. J'ai fait un espèce de parcours tout à fait subjectif et personnel, et à chaque fois je me suis posé la question de est-ce que ça me parle, est-ce que ça me dit quelque chose de moi. Donc c'était vraiment un regard tout à fait subjectif, et ça a donné un texte un peu original, je dirais, voilà, parce que ça ressemble à rien. C'est pas vraiment un essai, c'est pas vraiment un travail historique, c'est pas un roman, c'est pas de la poésie. Alors c'est un texte qu'on a du mal à définir parce qu'il est vraiment un peu atypique, mais qui est cette espèce de regard très personnel, avec une écriture d'ailleurs plus personnelle et très peu scientifique, sur cette donnée, cette composante de l'identité libanaise. Et en fait, c'était intéressant parce que je me suis complètement réconciliée avec eux. Et maintenant, je les aime beaucoup, ces Phéniciens.
Alors, c'est un roman composé comme le Liban, de plein de facettes, quoi.
Oui, alors, vous dites roman, c'est pas un roman, c'est vraiment un parcours, un texte parcours, un texte... Bon, j'espère qu'il a des qualités littéraires, donc je pense qu'il est agréable à lire. Il est assez fragmenté dans sa composition, mais vraiment le fil conducteur est cette question de l'identité phénicienne. Et évidemment, ça parle du Liban, mais ça parle du Liban justement comme d'un pays qui a été toujours ouvert, un monde ouvert, ouvert aux influences, et donc capable de prendre... De différents avants. Les Phéniciens, par exemple, ont pris beaucoup de choses aux Égyptiens, et ils ont pris aussi aux Grecs, mais ils ont donné l'alphabet. C'est la fameuse épopée de l'alphabet phénicien qui est transmis aux Grecs. Alors il y a le mythe d'Europe qui est très très beau, puisque Europe est la fille d'un roi tyrien. Donc Tyre est un des grands villes-états, on les appelait les cités-états phéniciennes. Et donc Europe est enlevée par un taureau qui est tombé amoureux d'elle. Elle est emmenée sur l'autre rive qui va devenir l'Europe. Et son frère Cadmos va partir à sa recherche, et en fait c'est ce mouvement là qui va transmettre l'alphabet aux Grecs. Donc voilà, il y a aussi l'origine de l'Europe, on va dire, dans cette mythologie phénicienne qui est vraiment intéressante.
On va finir sur cette note internationaliste. Voilà, merci beaucoup Georgia Marlouf.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews concernant le Festival Est-Ouest, mais pas seulement, sur notre site internet, le www.rdwa.fr. Les ouvrages de Georgia Marlouf peut-être en vente sur internet, c'est pas compliqué de vous trouver.
Tout à fait sur internet, bien sûr, et je pense dans les bonnes librairies de Die, il y aura sûrement
dans
la très bonne librairie de Die. Voilà.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Merci.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.